19h sur France Inter. Les informations, bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. Un enquêteur ému aux larmes et 22 secondes de bande-son. Une éternité. Le procès des attentats du 13 novembre consacré aujourd'hui au massacre du Bataclan. Nous serons sur place. Les 50 millions de Français vaccinés atteints. Emmanuel Macron vient lui-même de l'annoncer. Mais l'obligation vaccinale bien difficile à faire appliquer en Guadeloupe à l'hôpital. 25% du personnel seulement hors médecin est vacciné. Dans l'actualité encore, l'accord de Paris sur le climat semble bien loin. Le monde est sur un chemin catastrophique, s'alarme l'ONU ce soir, craignant un réchauffement climatique à plus de 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle. Après le contrat de sous-marin annulé avec l'Australie et son rapprochement avec les États-Unis, la Chine cherche de nouveaux alliés dans le Pacifique. Et puis les journées du patrimoine, visite d'un chantier exceptionnel au château d'Amboise, c'est le choix culture du vendredi. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, vous ne pouvez pas vous en souvenir, Hélène Philippe. Vous étiez trop jeune, peut-être même pas encore née. Mais il y a 40 ans, François Mitterrand inaugurait le TGV. Première ligne entre Lyon et Paris. Depuis, le TGV a fait des petits vers le sud, l'ouest, le nord et l'est. Et c'est pas terminé. On va en parler. On va se demander ce que ça a changé à notre rapport au temps et à l'espace. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos souvenirs. Ce que le TGV a changé dans votre vie. 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand le son se rajoute aux images, l'audience a été très difficile aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Charlotte Piret, vous êtes au Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte, on est entré dans l'horreur du Bataclan.
Il faut se représenter cette immense salle d'audience aux trois quarts pleine qui retient son souffle. À peine un soupir, le froissement d'un vêtement et le silence. Et puis retentit la musique des Eagles of Death Metal et les premiers tirs des Kalachnikov, d'autres tirs encore, et le silence à nouveau. 22 secondes de bande-son écoutées par une centaine de parties civiles tout en retenue. Survivants, parents de personnes assassinées qui découvrent aussi la projection panoramique de l'intérieur du Bataclan. Des images de la salle sans aucune trace de l'attentat, mais près du bar, dans l'entrée, dans la fosse, sur le balcon, des points bleus ont été ajoutés sur l'image. Et derrière chaque point bleu, des noms. Ceux des victimes décédées là. Devant le bar, monsieur Pierre Innocenti. Contre la barrière en fer forgé, 8 corps particulièrement enchevêtrés, précise l'enquêteur à la barre. Dans la fosse, à gauche de la scène, Cédric Mauduit, Fanny Minot, Lola Saline. 90 personnes au total.
Et l'enquêteur, Charlotte, qui a porté ce récit douloureux, était lui aussi visiblement marqué.
Cet enquêteur a 51 ans, plus de 20 ans de brigade criminelle et pourtant, il contient difficilement son émotion. Ce n'est qu'au petit matin, ce 13 novembre, qu'une fois les démineurs passés, qu'il entre dans le Bataclan. C'est assez indescriptible, mais il faut le décrire, soupire-t-il. L'ambiance est saisissante, lugubre, froide. Nous marchons dans du sang coagulé, au milieu de morceaux de dents, d'eau, de téléphones qui sonnent. On enjambe des corps et des corps. Et des corps. L'enquêteur va passer près de 2 mois, jour après jour, dans l'enceinte du Bataclan. Mais ce n'est qu'après 14 jours qu'est retrouvée la deuxième jambe d'un des kamikazes qui s'est fait exploser sur la scène. Alors, ma hantise, confie l'enquêteur, était d'être passée à côté d'une victime blessée, cachée et qui serait morte sans qu'on la retrouve.
Charlotte Piret au Palais de Justice, sur l'île de la Cité à Paris pour ce procès. Hors norme, 14 accusés présents, dont le principal, seul survivant du commando Salah Abdeslam, et une enquête qui n'a pas levé toutes les zones d'ombre. C'est un article que vous retrouvez sur franceinter.fr. Salah Abdeslam qui est officiellement aujourd'hui renvoyé devant la cour d'assises de Bruxelles pour les attaques de mars 2016 dans le métro et à l'aéroport de Zaventem. 32 personnes avaient été tuées, 340 blessées. Il sera jugé à partir de septembre prochain avec 9 autres personnes dont 5 sont actuellement dans le box avec lui à Paris.
Avec 18 jours de retard peut-être, mais l'objectif est bien atteint. 50 millions de Français sont vaccinés.
Avec une première dose, au moins les 3/4 des Français donc. Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
C'est le président lui-même qui s'en félicite.
Oui, dans une vidéo postée il y a quelques minutes, Hélène, sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron.
Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous.
Ah bah oui.
La vaccination se déploie très massivement.
Le pays tout
voilà, on y revoit Morissette, la première vaccinée de France le 27 décembre 2020. On y revoit la chemise ouverte du ministre Olivier Véran. Ce décompte, 10, 25, 50 millions. Et puis surtout, on y voit beaucoup, beaucoup Emmanuel Macron, les très nombreuses fois où le président est intervenu à la télévision, sur les réseaux, pour nous inciter à nous faire vacciner.
Le vaccin sauve des vies, le virus tue. C'est simple.
Depuis que le chef de l'État s'est adressé aux Français le 12 juillet, 14 millions d'entre eux ont passé le cap. Avec ce clip, c'est clair, l'exécutif présente ce succès de la vaccination comme une victoire, et donc comme une victoire d'Emmanuel Macron. Malgré les débuts poussifs de la campagne, malgré les presque 3 semaines de retard, vous le disiez, pour atteindre cet objectif des 50 millions, au départ c'était fin août, malgré les manifestations du samedi qui rassemblent encore quelques dizaines de milliers de personnes, et bien c'est vrai, l'exécutif peut se réjouir. La stratégie du pass sanitaire a fonctionné. D'ailleurs, le gouvernement ne se fixera plus d'objectifs. La campagne se poursuivra désormais à bas bruit pour aller chercher notamment les 15% des plus de 80 ans toujours pas vaccinés.
Une campagne qui donc forcément se ralentit. 60 000 injections en moyenne par jour en ce moment, alors qu'on a pu monter jusqu'à plus de 400 000 au cœur de l'été, juste après l'annonce de l'instauration du pass sanitaire. Pour les doses de rappel, on est à environ 30 000 injections quotidiennes. Il reste ces cas minoritaires, certes, mais qui peuvent désorganiser un établissement comme le CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 75% des médecins sont vaccinés, mais seulement 25% du reste du personnel. Comment, dans ces conditions, faire respecter l'obligation vaccinale ? Eh bien, c'est mission impossible pour le directeur général du CHU, Gérard Cotelon.
C'est une équation insoluble. Hein. Soit je suspends 75% du personnel, ça fait à peu près 2200 personnes, hein, auquel cas le CHU doit fermer, mais ne pourra pas fonctionner parce que ce sont des agents de toute catégorie. Hein. Ce ne sont pas que des soignants, mais c'est aussi bien du personnel administratif, technique, logistique. Soit j'autorise ces personnels à travailler malgré l'interdiction que me fait la loi. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc j'assume cette responsabilité qui est une responsabilité pénale lourde, hein, qui pèse sur ma tête, de laisser travailler des gens qui auraient dû être suspendus parce que je ne peux pas fermer l'hôpital. Le CHU, c'est le principal outil de soins du territoire, c'est l'hôpital de recours et je ne veux pas me retrouver dans une situation de mise en danger de la vie d'autrui parce que l'hôpital serait fermé. Je suis plutôt sur un délai d'un mois supplémentaire. Entre-temps, il faut faire de la pédagogie, il faut convaincre les gens. Mais sur le territoire de Guadeloupe, c'est un discours qui ne prend pas.
Gérard Cotelon avec Hélène Chevalier, le directeur du CHU où il y a eu plus de 300 décès en 2 mois cet été. Un directeur qui a aussi déposé 3 plaintes pour menace de mort. Depuis le début de la pandémie, les autorités guadeloupéennes se heurtent à une forte résistance de la population aux mesures prises pour lutter contre le virus. Une dizaine de plaintes au total ont été déposées par le préfet et les autorités sanitaires. Maintenant que les touristes sont partis, les contraintes s'allègent aussi sur le littoral. Plus besoin de porter le masque dans les rues, dans les Pyrénées-Atlantiques et dans le Var. Attendez-vous en revanche à présenter votre passe sanitaire si vous partez au ski cet hiver. C'est une information France Inter. Pas à toutes les pistes sans doute, mais au moment de l'achat du forfait. Et puis, le remplacement de Didier Raoult à la tête de l'IHU méditerranéen se fera doucement. Une commission de recrutement a été créée, un appel d'offres international lancé. Le successeur désigné au plus tard le 30 juin 2022. Ainsi en ont décidé les membres fondateurs de l'Institut hospitalier universitaire aujourd'hui.
Il est pratiquement 19h09 sur France Inter. C'est le journal d'Hélène Philly avec l'affaire des sous-marins australiens qui met à mal la diplomatie française, mais qui révèle aussi la course à l'armement dans le Pacifique.
Parce que l'Australie a préféré les sous-marins des Américains à propulsion nucléaire aux appareils français conventionnels. On ne parle pas d'armes, évidemment, mais de chaufferies nucléaires qui permettent notamment une meilleure autonomie des navires, une plus grande discrétion. Il n'empêche, l'Australie devient le 7e pays dans la zone Indo-Pacifique disposant de sous-marins d'attaque de ce type. Et forcément, cela interroge le spécialiste Antoine Bondaz, interrogé par Bertrand Galichet, il est chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Une des questions qui se pose, c'est notamment le caractère sensible
du partage de technologies, puisque les sous-marins à propulsion nucléaire américains fonctionnent avec de l'uranium hautement enrichi. Et donc là-dessus, il peut y avoir un débat qui va se poser non seulement en termes de respect du traité de non-prolifération nucléaire, mais il y aura très certainement un débat en Australie sur cette question.
Quand la Chine monte au créneau sur cette question de la prolifération nucléaire, est-elle légitime, est-elle fondée à le faire ?
La Chine utilise l'argument de l'irresponsabilité des États-Unis et de l'Australie en matière de prolifération. Deuxième élément qui est intéressant dans la presse chinoise, ce sont les propos de certains experts qui sont de dire que du moment où l'Australie se dote de sous-marins à propulsion nucléaire, alors l'Australie est sur la voie de se doter in fine d'armes nucléaires et alors elle pourrait faire l'objet de frappes nucléaires en cas de conflit. Mais on l'a vu ces dernières années, les tentatives chinoises d'intimidation n'ont non seulement pas marché, mais elles ont été extrêmement contre-productives. C'est une des raisons de cet accord historique entre les États-Unis et l'Australie.
Antoine Bondaz, joint par Bertrand Galichet, la Chine en effet voit d'un mauvais œil cette nouvelle alliance. Elle cherche donc de nouveaux partenaires commerciaux pour le moment. Elle a officiellement demandé aujourd'hui à adhérer au traité commercial transpacifique, signé par 11 pays déjà, le pacte de libre-échange le plus important de la région et qui pèse plus de 13% de l'économie mondiale. Stéphane Pambrin est à Pékin.
Pour riposter à l'alliance militaire, la Chine joue donc la carte de l'alliance économique. Ce partenariat de libre-échange transpacifique a été créé à l'origine par les États-Unis pour contrer justement l'influence de la Chine. Mais Donald Trump s'était retiré du programme en 2017. 11 pays y participent, dont l'Australie, le Canada, le Chili, le Japon et la Nouvelle-Zélande. D'autres pays négocient actuellement leur entrée, dont le Royaume-Uni, la Thaïlande et maintenant la Chine. Le ministre chinois du Commerce a formellement déposé sa demande d'adhésion à ce bloc économique qui donnerait à coup sûr un coup de fouet à la Chine, puisqu'elle deviendrait le pays le plus puissant du groupe, isolant du même coup ceux qui n'en font pas partie, comme les États-Unis et l'Inde, deux ennemis stratégiques de la Chine. En novembre dernier, elle était au cœur déjà d'un autre accord de libre-échange avec 14 pays, le partenariat économique global régional, plus grand bloc commercial du monde, et qui comprend, outre la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et là encore, les États-Unis et l'Inde n'en font pas partie. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
La France, de son côté, cherche comment riposter. De longues tractations vont s'ouvrir pour sortir de ce contrat de sous-marin et négocier des indemnités à l'amiable ou devant un tribunal arbitral international. Et en matière de climat, les États font-ils assez d'efforts ? Où en sont les engagements pris à Paris en 2015 ? Les 191 signataires de l'accord devaient faire le point auprès de l'ONU à quelques semaines de la COP26 en Écosse. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Le rapport des Nations Unies qui en émane et qui vient être publié est loin des promesses faites il y a 6 ans.
Oui, d'après ce rapport, la planète se dirige vers un réchauffement de 2,7 degrés à la fin du siècle, bien au-dessus de l'objectif de 1,5 degrés fixé par l'accord de Paris. Pour parvenir à cette conclusion, l'agence de l'ONU en charge du climat a évalué les engagements climatiques actuels de 191 pays. Conclusion, sans effort supplémentaire, les émissions de gaz à effet de serre vont encore augmenter de 16% d'ici 2030 par rapport à 2010, alors qu'il faudrait les réduire de 20% pour contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. En 2015, dans l'accord de Paris, les pays se sont engagés à soumettre aux Nations Unies une nouvelle feuille de route, plus ambitieuse, 5 ans plus tard, c'est-à-dire avant la fin 2020. Eh bien, au dernier comptage, cet été, 113 pays sur 191 ont rendu leur copie. Parmi eux, États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Canada. Et c'est une leur d'espoir. Ces nouvelles promesses permettraient à ce groupe de 113 pays de réduire de 12% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Mais à quelques semaines de la COP26, l'ONU n'a toujours pas reçu toutes les feuilles de route réactualisées, notamment celles de la Chine, de l'Inde ou de l'Arabie Saoudite.
Sandy Dauphin, l'Italie se rapproche d'un référendum sur la légalisation du cannabis. Une pétition lancée il y a une semaine seulement a déjà rassemblé 495 000 signatures et il en faut 500 000 depuis un changement de la loi cet été pour déclencher un procédure référendaire. Explication Julie Pietri.
En Italie, cultiver du cannabis chez soi, c'est autorisé depuis une décision de la Cour de cassation il y a 2 ans. Et il y a déjà, selon des estimations, près de 6 millions de consommateurs dans le pays. Mais la récolte des signatures sur le web est allée bien plus vite que ce qu'avaient prévu les organisateurs. Antonella Soldo de l'association Meglio Legale brandit pour l'occasion un drapeau italien agrémenté d'une feuille de cannabis.
Presque la moitié des gens qui ont signé ont moins de 25 ans. Ce sont ces jeunes jeunes dont on dit qu'ils n'ont rien à faire de la politique, du fait de voter ou de participer. Regardez là, on a trouvé dans cette campagne, dans cette pétition, quelque chose d'attractif.
En face, les opposants à la légalisation insistent. Le cannabis est une drogue, c'est dangereux. Roberto Saviano, journaliste reconnu pour son travail sur la mafia italienne, qui récupère des milliards chaque année dans le trafic de marijuana, a une autre lecture du sujet.
On parle de la légalisation comme de l'instrument principal dans la lutte contre les mafias. Quand on dit un État qui libéralise la consommation de drogue, qu'est-ce que c'est que ça ? La réalité, c'est en fait que la drogue est déjà en libre accès aujourd'hui. Légaliser signifie contrôler.
La récolte des signatures est une étape. La justice italienne devra ensuite vérifier leur authenticité pour que le président du Conseil italien puisse fixer une date pour le référendum.
Une autre pétition pour la légalisation de l'euthanasie a déjà recueilli plus de 700 000 signatures.
On part à présent à Toulon pour une opération dédicace un peu spéciale.
Celle d'Éric Zemmour, le polémiste, entretient le flou sur une candidature tant que, dit-il lui-même, cela sert ses intérêts. Et il est justement en pleine promotion de son livre, sorti cette semaine, au Palais des Congrès de Toulon. Il fallait débourser 20 euros pour accéder à la dédicace. Qui est donc venu rencontrer l'auteur, pas encore candidat ? C'est un reportage d'Élodie Forêt.
T-shirt floqué du visage d'Éric Zemmour, Lucie, 26 ans, a voté Marine Le Pen en 2017 au premier tour. Mais elle ne lui pardonne pas le débat raté contre Emmanuel Macron et veut aujourd'hui donner sa chance aux polémistes dont elle admire.
La sincérité, son éloquence, son humour, sa culture. Pour moi, il est l'incarnation même de la France qu'on aime.
Comme elle, beaucoup de jeunes ce soir, écœurés de la politique et qui vantent la sincérité d'Éric Zemmour. Dans la file d'attente aussi d'anciens LR comme Philippe, trahi, dit-il, par la droite.
Je me sens trahi par beaucoup de candidats actuels, c'est-à-dire ceux qui se sont tous présentés pour l'élection présidentielle, là, que ce soit Pécresse, Xavier Bertrand ou les autres, parce qu'ils ont quitté déjà le LR, et puis les autres, ils sont devenus macronistes, donc en fait, tous ces gens-là, ils ne m'intéressent plus.
Les LR qui n'intéressent pas non plus Jean-Luc et Marc, 70 ans, des vieux gaullistes comme ils se définissent, qui ne voient qu'en Zemmour l'héritage du général.
Il est gaulliste parce qu'il aime la France, il défend les Français.
Il parle de France, il parle pas de République. Tous ces mecs, là, ils parlent de République.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Lui, il parle de la France. Défendre les valeurs de la France, la culture française, la langue française. Ne pas se soumettre aux Américains, aux Européens ou à l'Allemagne, comme on fait.
Des fans de Zemmour de toute génération, donc, et qui partagent une même impatience de voir le polémiste se lancer réellement dans la course.
Reportage signé Élodie Forêt. Le gouvernement a transmis son nouveau projet de décret sur l'assurance chômage au Conseil d'État, avec les chiffres qui attestent d'une économie qui va mieux, d'un marché de l'emploi qui se redresse, des chiffres qui, espère-t-il, convaincront les sages et permettront une application des nouvelles règles le 1er octobre. Mais les syndicats contestent les nouveaux arguments et la philosophie d'une réforme qu'ils jugent injuste. La CFDT, la CGT et Force ouvrière sont prêts à déposer de nouveaux recours. Allez, on s'aère ce week-end, on en a bien besoin. C'est les journées du patrimoine et c'est le choix culture de ce vendredi aussi. Isabelle Pasquier est allée voir un chantier de restauration ouvert au public au Château Royal d'Amboise. Des charpentiers venus du monde entier qui refont la charpente de la chapelle Saint-Hubert, petite chapelle qui abrite la tombe de Léonard de Vinci. Reportage.
C'est un chantier exceptionnel. Il y avait urgence à restaurer cette charpente très altérée de la chapelle gothique, la sépulture de Léonard de Vinci. Passionnés, les 30 charpentiers travaillent exclusivement à la main. Ce sont les charpentiers sans frontières qui font revivre devant nous des savoir-faire du XIIe et XIIIe siècle, des techniques qui ont fait leurs preuves, comme à Notre-Dame de Paris. François Calame est le créateur de Charpentiers sans frontières.
C'est une association qui a pour objectif de croiser les expériences. Le sens de notre démarche, c'est donc de réhabiliter ce que l'on peut faire dans une intense collaboration entre la main, l'esprit et le cœur, dans un dialogue qui est extrêmement riche entre la matière vivante végétale et puis l'être humain qui le met en œuvre.
Sur le chantier, des charpentiers professionnels d'Europe et même des États-Unis qui viennent ici pour transmettre leur savoir-faire à des plus jeunes comme Lou. Lou qui a quitté son travail d'ingénieur agronome pour devenir charpentière.
Ici, en fait, on se rejoint avec de nombreux charpentiers pour expérimenter des techniques anciennes qui auraient une pertinence à revenir au goût du jour. Travailler des bois courbes, ça nous permet de suivre le fil du bois et d'avoir des bois courbes qui ne peuvent pas être sortis de ciel.
Un chantier qui se fait sous l'œil bienveillant du grand Léonard.
Un reportage à écouter en longueur, coulisses dans la matinale de France Inter demain. Et un grand merci aux équipes des journaux de toute cette semaine, à la technique, Jenab Zangaré, Henri Bérec, Ronan Mahé, à la rédaction en chef, Estelle Schmitt, Anne Patinec, assistée cette semaine de Caroline Desrosiers, Sébastien Donat et Hélène Barbe.
Quelle équipe formidable.
On a de la chance.
Avec en plus Hélène Philima, vraiment la Dream Team. Merci beaucoup Hélène, dans un instant le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps perturbé à l'ouest.
Oui, les pluies qui arrivent et qui arrosent le Finistère en ce moment vont s'étendre demain matin de la Bretagne au sud de la Garonne. Elles seront parfois soutenues et orageuses sur l'Aquitaine. Au fil de l'après-midi, ce temps instable progressera vers la baie de Seine, la région parisienne, le massif central et l'est des Pyrénées en effaçant progressivement les éclaircies. Les averses orageuses seront plus marquées sur le massif central. Ça s'éclaircira un petit peu quand même l'après-midi près de l'océan, mais on aura toujours un risque d'averses, voire d'orages. Et puis entre le nord de la Seine, les régions de l'est et la Méditerranée, là vous serez plus gâtés avec du soleil et un tout petit peu plus de nuages l'après-midi, mais ça sera encore bien agréable.
Et du côté des températures ?
Ça baisse un petit peu, 8 à 16 degrés le matin. L'après-midi, 16 degrés seulement à Tarbes, 19 à Dinard, à Montauban, 20 à Tours, 23 degrés à Lille, Paris et Nancy, 25 à Lyon, 27 à Marseille. Dimanche, les pluies gagneront l'est du pays. Elles seront soutenues sur la partie centre-est. Et puis, il fera plus frais, souvent 17 à 20 degrés, Claire.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.